merci à l'IEIM et à Alain Denis d'organiser cette rencontre, déjà tout à fait à point et à propos, comme M. Rivard vient de le présenter de manière très élégante, et de m'avoir invité également de parler après M. Rivard et aussi. En fait, ça va être un gros défi parce que sans se connaître vraiment, on a de toute manière visiblement un peu les mêmes constats. Je sais pas si je suis un expert de l'humanitaire, mais j'ai fait le métier pendant 15 ans, notamment avec la Croix-Rouge, donc avec mes yeux d'ancien travailleur humanitaire. J'ai rapidement convenu avec moi-même, quand je commençais à préparer ma présentation, que j'étais extrêmement critique par rapport à l'ONU, spontanément, aveuglément, et c'est facile aussi d'être critique par rapport à l'ONU. Alors j'ai essayé volontairement, de manière épistémologique, de me positionner de manière positive face à mon sujet. Donc, vous voyez, mon nouveau rôle de prof, a fait sa job. Mais je n'ai pas tout à fait réussi, mais quand même, je vais essayer d'être positif. En fait, Mon analyse par rapport au succès, ou en tout cas au succès relatif des objectifs de lutte contre la pauvreté des Nations Unies est un peu proche de ce que l'ancien ambassadeur américain, je ne sais pas si ça a été dit hier, mais c'est une phrase magnifique, on parle du début du siècle passé, Henry Cabot Lodge, que je n'ai jamais connu, en 1920, a dit « Les Nations Unies ne nous serviront pas à nous rendre au paradis, mais nous serviront à éviter l'enfer. » C'était d'hier. Bon, je me permets de le répéter, je m'excuse pour mon absence d'hier. Mais cette phrase-là, personnellement, je la trouve tout à fait à propos. Et tout comme en 1971, on disait que Justin avait gagné les élections, ben, ce monsieur, clairement, voyait juste dans l'avenir et le futur de l'humanité et les limites des Nations Unies. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, de cet agenda, de ce vaste agenda de lutte contre la pauvreté, parce qu'on appelait ça les objectifs du millénaire, on appelait ça les objectifs de développement durable. Je me souviens bien, il y avait aussi un agenda avant, et je vous garantis que dans 15 ans, si moi-même je ne suis pas à la retraite, on me réinvitera sur l'échec des prochains objectifs de lutte contre la pauvreté des Nations Unies. Donc, je pourrais arrêter mes propos tout de suite, mais comme il me reste encore 12 minutes, je vais quand même aller avec quelques hypothèses. Mais en fait, premièrement, peut-être y aller avec la dimension plus négative, ou les trois grandes critiques qu'on retrouve tant dans la littérature, je dirais, académique, que sur le terrain tant opérationnel que le soir au bar où les vraies choses se disent. L'ONU coûte plus cher que les résultats que ça nous rapporte. Hein. Souvent, on attend ça, on entend ça assez clairement. Selon ce qu'on intègre à l'intérieur du budget des Nations Unies, évidemment, bon, personnellement, je l'établis à près de 14 milliards de dollars. Plus de la moitié de ces sommes-là sont pour les opérations de maintien de paix, qui sont assez coûteuses. On parle de plus de 8 milliards. Vous savez que les opérations de maintien de la paix, c'est la première étape de stabilisation des sociétés vers un développement. Pour vous donner une comparaison, vous savez sûrement, l'aide canadienne internationale est entre 5 et 6 milliards. L'ONU, admettons qu'elle est à 14 milliards. C'est pas tant que ça, finalement. Et personnellement, oui, l'ONU est énorme, oui, elle est perfectible, oui, c'est une grosse bureaucratie lente, mais en mon sens, le coût de ne pas avoir l'ONU aujourd'hui serait pire pour l'humanité. Même si, jusqu'à un certain point, l'ONU maintient artificiellement une certaine stabilité dans plusieurs régions du monde, maintenant qu'elle est là, elle ne peut plus partir dans certains endroits, et ça m'apparaît assez évident, je le dis un petit peu de manière ironique. Deuxième grande critique, puis M. Rivard l'a abordé aussi, maintenant c'est la dimension politique qu'on essaie d'éviter ce matin, mais qui revient, c'est que l'ONU est au service des États membres, elle est au service des États puissants, elle est au service de l'hégémon, en l'occurrence bon, des États-Unis, ou de l'équilibre du Conseil de sécurité qui a sûrement été abordé hier. Et j'ai personnellement été souvent témoin, puis on le voit clairement tous les jours par rapport à la crise des réfugiés actuellement en Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc l'ONU est en faillite littéralement, en échec ou en faillite littéralement par rapport à sa capacité de protéger la population civile, alors que ça devrait être ça son véritable mandat. Même avant même de la lutte contre la pauvreté, si ce n'est pas la gouvernance globale qui est au front pour assurer la protection de la population civile, à quoi sert-elle effectivement? Et ça, c'est une critique pour laquelle je suis je suis avec ces critiques-là également. Troisième critique, C'est que, les Nations Unies, c'est lié à la deuxième, c'est que les Nations Unies ne réussissent pas à modifier le comportement des États, hein, qui est un peu l'approche réaliste. Je suis plutôt un institutionnaliste, je pense qu'au contraire, même modestement, surtout dans l'opinion publique, à travers les démocraties dont le Canada fait partie et d'autres pays, je crois qu'au contraire, les Nations Unies ont un rôle énorme à jouer en éduquant la population, surtout avec les réseaux sociaux et Internet maintenant. C'est fondamental que cet équilibre démocratique-là dans l'éducation populaire, dans pour qui on vote avant-hier, par exemple, et c'est fondamental parce que c'est aussi notre responsabilité comme citoyen du monde, tant comme individu que comme pays porteur de certaines valeurs, on puisse faire partie. Alors cette critique-là aussi, je la partage complètement. La partie un peu plus positive maintenant, encore une fois, elle n'est pas tout à fait positive, puis en me relisant tout à l'heure, je me suis dit, il n'y a pas tellement de différence entre mes critiques et ce qui n'est pas des critiques, mais quand même, allons-y. Est-ce qu'on peut être satisfait des objectifs du millénaire après ces 15 dernières années? Je ne répéterai pas ce que M. Rivard a déjà présenté. Donc, il y a certaines avancées très importantes. Effectivement, la réduction du nombre de personnes qui ne vivent plus dans l'extrême pauvreté. Encore une fois, c'est très relatif. 1$, 1,25$, 2$. En bas de 20$, je pense qu'on est extrêmement pauvre. Mais en tout cas, on s'est mis ces indicateurs-là, mais il y en a beaucoup moins. Tout ça dans le contexte, effectivement, que la Chine a fait un boom à valeur absolue, le Brésil aussi, d'autres régions du monde. Donc, jusqu'à quel point les objectifs du millénaire ont eu un impact, et on peut faire une corrélation empirique par rapport à la réduction de la pauvreté, c'est très discutable. Par contre, au niveau de la lutte contre certaines maladies, là, je pense que les Nations Unies ont joué un rôle majeur. Tuberculose, paludisme, évidemment VIH-SIDA. Certes, il y a encore énormément de mortalité à travers le monde là-dessus, mais donc, je ne sortirai pas des chiffres, M. Rivard en a parlé déjà beaucoup, mais on aurait sauvé presque 20 millions de personnes dans les 15 dernières années à travers ces différents programmes-là. Et je peux moi-même témoigner qu'effectivement, il y a une transformation de nos taxes en services de lutte contre certaines maladies sur le terrain, et ça s'est clairement observé. Au niveau de l'eau potable, là aussi, il y a certaines avancées, mais c'est très mitigé. Un nombre plus important de gens vivent avec de l'eau traitée, parce qu'on ne dit pas d'eau potable, on dit de l'eau traitée, il y a différents degrés. On sait même par rapport à ce qu'on va déverser ici à Montréal, là, c'est très variable. Beaucoup moins de gens meurent de la diarrhée, du choléra, de l'hépatite et de la typhoïde, qui sont des maladies liées à l'eau non consommable. Donc voilà, ça c'était mes côtés positifs, imaginez. Quelle suite à tout ça, et mon titre que j'avais écrit sans penser à ce que j'allais dire il y a quelques mois quand on m'a invité, finalement j'ai écrit ça sans revoir mon titre, puis j'ai réappris tout à l'heure en écrivant à M. Oli quel était mon titre, vous savez, ben, finalement, je suis resté quand même dans le thème, c'est-à-dire que la suite de ça, c'est que là on redonne on va oublier l'échec des objectifs du millénaire rapidement, on en fabrique d'autres, on en construit d'autres, et on se redote finalement comme une entreprise peut faire faillite régulièrement, il y a des individus, on fait faillite, on se met sous les assurances de je ne sais pas quoi, et on change de nom, on repart notre compagnie. Alors c'est un peu ça que les Nations Unies font à chaque 10, 15 ou 20 ans, selon les agendas qu'on va se donner. Malgré ce pessimisme absolu-là, je pense que je préfère une planète qui se dote d'objectifs irréalistes et critiquables qu'une planète qui ne se dote pas d'objectifs. L'échec du multilatéralisme ou de la gouvernance globale me semble assez clair, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, d'en essayer, dans le rassemblement. Là, ça paraît peut-être naïf, mais la beauté du multilatéralisme, j'y crois, et je crois qu'on est quand même aussi à l'âge de pierre dans le multilatéralisme, et que peut-être dans 1000 ans, on nous observera comme des hommes de Cro-Magnon en disant hey, « il avait pas compris comment faire, et certainement on n'a pas encore compris comment faire, et j'espère que mes petits-petits-petits-enfants réussiront mieux que ce qu'on aura fait ». Une petite parenthèse sur l'échec du Canada dans les 8 dernières années dans la lutte contre la pauvreté, tant bilatérale qu'à travers le multilatéral. Ça me semble assez transversal. On en a largement discuté depuis les 7 derniers mois. On a beaucoup d'espoir à la nouvelle administration, on s'entend bien, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure en devant un café. C'est pas demain que tout va être nouveau, puis là qu'on va gambader en disant que le Canada est revenu ce qu'il était. Mais déjà, il y a un peu d'espoir, et il reste quand même beaucoup à faire, dans tous les cas, pour que le Canada reprenne un rôle de leadership. Deux petits points en terminant qui sont beaucoup plus existentiels que pratiques. Le premier porte, à mon avis, sur un enjeu qui n'est pas abordé dans les anciens objectifs du millénaire ni dans les nouveaux. C'est, je dirais, l'équation entre ce que la Terre peut nous offrir, la manière dont on le produit et la manière dont on le consomme, avec l'équation de, divisée par la population mondiale. Donc, et je ne veux pas utiliser de mots qui pourraient éthiquement vous déranger, mais il y a un enjeu de contrôle de la population planétaire. Jusqu'à quel point, jusqu'à combien d'individus on peut effectivement cohabiter sur la Terre, tout en étant relativement en équilibre. C'est ça le développement durable, finalement. Et pour l'instant, dans plusieurs régions du monde, vous le savez, il y a un enjeu important de surpopulation, tout comme le 90% du Canada n'est pas plus peuplé, là. Il y a des asymétries très claires. Mais ça, cet enjeu-là de la gestion de la population, du contrôle des naissances, même si c'est très éthiquement sensible, c'est certainement un agenda qui doit revenir ultimement aux Nations Unies, parce que si ce n'est pas les Nations Unies qui le fait, qui va le faire? Certainement pas l'État islamique.